Ah, j'étais bien remué ce matin encore. Ces chants sont merveilleux. Ça va, vous m'entendez bien? Ok, gloire à Dieu. Dieu vous bénisse chacun. Alors j'ai préparé un message ce matin. Et la préparation des messages est toujours des choses à apprendre. C'est jamais la fin. On ne sait jamais tout. On ne connaît pas tout. Alors, j'ai essayé de donner un titre, et celui que j'ai choisi comme titre, c'est « Quelles sont nos motivations ?» Ça commence. Alors, quelles sont nos motivations? Pourquoi on est là? Pourquoi on chante? Qu'est-ce qui nous pousse à venir ici le matin? Qu'est-ce qui nous pousse à parler de Jésus-Christ autour de nous? Qu'est-ce qui nous pousse? C'est quoi qui nous fait agir? C'est quoi qui nous motive? C'est quoi le moteur? Alors, je cherchais un passage un peu. Alors, ce que j'ai pris comme passage, c'est dans Apocalypse. C'est pas un livre facile. Et j'ai pris le chapitre 2, la première lettre, la première église à laquelle le Seigneur s'adresse. Il y en a sept. Alors j'ai pris la première. La première église, c'est l'église d'Éphèse. Et je crois que quand Dieu s'adresse à la fois aux responsables, il s'adresse aussi à l'église à travers les responsables. Et j'ai souvent entendu dire qu'on était tous un peu responsable de chacun et de prendre soin des uns des autres. Alors, l'église d'Éphèse, je vais lire le passage, chapitre 1er, voilà. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, mais que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. J'ai pas mes lunettes, alors des fois je perds un peu la ligne. Que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu haïs les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de mon Père. Elles commencent toutes pareilles, elles commencent par un écrit, une lettre, et elles finissent toutes pareilles. Mais c'est le contenu à l'intérieur qui est différent. Mais chaque fin de lettre, chaque début, mais chaque fin de lettre, il est écrit « à celui qui vaincra ». Alors, je vais faire un petit historique sur cette ville d'Éphèse. Donc, c'était une ville qui se trouvait donc, je sais que Yann pourra me reprendre si je me trompe. Alors, j'essaie de... Mais je compte sur les anciens pour... Alors, dans cette ville d'Éphèse, donc cette ville d'Éphèse qui se trouvait donc en Asie mineure, qui était située dans l'actuelle Turquie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous allez en Turquie, vous ne la trouverez pas. Ou alors, il faut y aller avec des archéologues. Et elle se trouvait à l'ouest, près des côtes. Donc ça, c'est un lieu stratégique très important. C'est une ville qui était très importante. Alors, sur le plan politique, elle était la capitale de la province romaine d'Asie. Sur le plan religieux, elle possédait le très célèbre temple d'Artémis, appelé aussi temple de Diane. Ça, c'est sur le plan religieux. Sur le plan économique, elle était située principalement, justement, sur la route qui menait de Rome à l'Orient, donc il y avait un commerce extraordinaire à faire. C'est ce qui a permis aussi de développer donc tout ce qui est économique, industrie, le commerce. Et le fait qu'elle soit sur la côte, donc son port, servait à tous les bateaux pour ramener, transférer tout ce qui est commercial, et donc ça donnait là. C'était prospère. Et puis, à un moment donné, dans l'histoire, ce port a commencé à devenir avec de la vase, machin, il devenait difficile d'accès. Et donc, du coup, les bateaux commerciaux se sont dirigés vers les côtes pour aller vers Smyrne, la ville de Smyrne. Donc, du coup, le commerce et l'industrie ont commencé à plonger. La crise. Mais il restait une ressource encore économique qui fonctionnait bien. C'était les orfèvres qui faisaient des reproductions du temple de Diane et qui les vendaient. Et ça ramassait. Mais quand l'Évangile est arrivé, là c'est devenu aussi une menace pour les commerçants, pour les orfèvres, portée par Démétrius. Et ils ont commencé à être en colère et à s'opposer à l'Évangile qui venait leur grappiller leur commerce et foutre tout en l'air, quoi. Alors, c'est alors que l'Évangile est devenu une menace, d'où la colère des commerçants, conduit par Démétrius, qu'on peut lire dans les livres des Actes, chapitre 19. L'église d'Éphèse a rencontré des difficultés, la persécution. Et au second voyage de Paul, il est allé faire une visite à Éphèse. Et là-bas, il y a laissé Aquilas et Priscille. Et dans son troisième voyage, il y est resté un peu plus longtemps, 2 ans. Et là, il a donné des instructions. Là, il a formé, mis en place. Il a mis des anciens, tout a été mis en place. Et Paul a quitté cette ville au moment où il y a eu les émeutes avec Démétrius et tout ça. Donc Paul a quitté cette ville, mais il a laissé Timothée sur place en lui donnant des instructions par rapport aux fausses doctrines, aux faux apôtres, aux faux prophètes et ainsi de suite. Et puis après, par la suite, Paul va envoyer Tichrite, si je prononce bien le nom, Tichrite, qui lui aussi exercera son ministère là-bas. Alors, cette lettre de l'Apocalypse donne, enfin, déjà j'ai tracé un petit peu l'endroit, un peu l'ambiance qu'il y avait. Et là, le Seigneur se présente. Et c'est tout à fait original. Drôle de manière de se présenter. Il n'y a que lui qui peut se présenter comme ça. Je suis celui qui tient les 7 étoiles dans ma main droite. C'est à quelqu'un, si moi j'écris un courrier comme ça au maire, je vais dire. Non, il n'y a que Jésus qui peut. C'est lui l'auteur de cette lettre. C'est son identité. C'est ce qu'il est. Je suis celui qui tient les étoiles dans ma main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Les chandeliers. Au début, le chapitre d'avant nous dit que ces chandeliers représentent les églises. Voilà comment nous sommes représentés dans le ciel comme des chandeliers. Donc, un chandelier, c'est fait pour éclairer. Un chandelier, c'est fait, apporte de la lumière dans les ténèbres. On est représenté dans le ciel comme un chandelier. On est là pour éclairer. Les 7 chandeliers, c'est comme des lampes. Nous avons ce témoignage, comme une lumière dans ce monde. Nous ne sommes pas là pour nous mêler à ce que font. Nous sommes une lumière. Nous sommes posés comme une lumière. Nous devons éclairer. L'Église est appelée à éclairer ce qui nous entoure. Nous avons ce témoignage. Jésus marche au milieu des 7 chandeliers. Il est présent au milieu des églises. Il n'est pas passif, il est actif, il marche. Et il les connaît. Et le Seigneur va dresser un bilan de cette église qui est super. Si on nous disait tout ce qu'il y a de bien chez nous, ce serait génial, tout le temps. Au verset 2, il dit « Je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se présentent comme apôtres et qui ne le sont pas. Et tu as décelé qu'il mentait. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi, et tu ne t'es pas lassé. » Je retiens 2 mots. Je connais et je sais. La crainte devrait remplir nos cœurs, et en même temps, une paix tranquille de savoir qu'il sait et qu'il connaît. À la fois, on s'agit dans tous les sens. Ouais, mais je sais et je connais. Ça me rassure. Moi, ça me rassure. Hein. Vous aussi, ça vous rassure qu'il sait et qu'il connaît. Hein. Alors, les leçons que je peux tirer de cela, moi, c'est que le Seigneur sait, il est parfaitement informé de toutes nos activités, tout ce qu'on fait. Il sait ce qui se fait ici. Nous sommes une église active. Nous nous donnons de la peine. C'est pas fini parce qu'il va falloir faire la peinture, c'est hein. Nous sommes éprouvés. Et l'histoire le pourrait en raconter. Nous avons souffert aussi, beaucoup ont souffert, mais nous souffrons aussi parce que nous voulons être fidèles à celui qui nous a enrôlés. Et puis, voudrait ne pas se lasser et toujours continuer. Et surtout ne jamais se décourager. L'église d'Éphèse est, avec tout ce que je lis, une église adulte. Elle arrive à faire des choses. Cela nous concerne aussi tous. On connaît tous nos difficultés. On a tous des difficultés. Il sait que même toutes les décisions que nous prenons dans les réunions, les anciens, les diacres, quand on se réunit, des fois, là-haut, on se réunit, le Seigneur le sait. Il sait les décisions que nous prenons, avec son aide. Ça ne se fait pas comme ça. Nous croyons que le Seigneur est au courant de ce que nous faisons, de ce que nous disons, et de l'orientation qu'on veut prendre avec chacun. Il est au courant des discussions que nous avons, des fois après le culte, quand nous sommes dehors, il le sait. Il sait tout ça. Il marche au milieu de son église, il n'est pas à côté, il n'est pas ailleurs. Il est avec son église. Il connaît les sentiments qu'il y a au plus profond de chacun d'entre nous ce matin. Il connaît nos sentiments. Le psaume 39 nous le rappelle. Tu me sondes, tu me connais. Tu sais quand je me lève, quand je m'assis. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche, quand je me couche. Tu sais. Une chose à laquelle s'est intéressé le Seigneur à cette église d'Éphèse, c'était ses œuvres. Elle faisait du bon boulot. Travaillait bien. Ça montrait quoi? Ça montrait sa foi. Ça montrait sa foi. Et son amour. Le Seigneur aussi s'intéresse à nous, heureusement. Il connaît la situation de l'église d'Éphèse mieux que n'importe qui d'autre. Et s'il y a quelqu'un qui peut prétendre, j'en sais plus, que le Seigneur lui-même, qu'il se lève. Il nous connaît et il connaît notre église. Ce qui l'intéresse le plus dans l'église d'Éphèse, ce sont les œuvres, parce que les œuvres démontrent la foi, mais aussi la communion, les relations qu'il y avait les uns avec les autres. Le Seigneur aime les églises, toutes celles qui le servent. Il se tient près d'elles. Il marche au milieu d'elles. C'est le cas pour notre Église. C'est une grâce, c'est un privilège, c'est un honneur, et on a chanté Majesté, et Sa Majesté marche au milieu de nous. Et comme dit souvent Daniel Coronès, c'est génial. Mais alors ça, c'est mon premier mais, sans muguet. Mais c'est aussi une grande responsabilité que le Seigneur nous confie. C'est une grande responsabilité. Avec l'église d'Éphèse, il n'a pas rigolé. Il a été très ferme. On va y venir. Donc le Seigneur, après avoir dressé un bilan de cette église d'Éphèse d'une manière très élogieuse, il y a un mais, un autre mais qui arrive. Et j'ai remarqué dans la Bible, il y avait beaucoup les... Je ne me rappelle plus comment on appelait ça à l'école, parce que je n'ai pas retenu beaucoup de choses à l'école. Mais où est donc Ornica ? Voilà ce que j'ai retenu. Mais. Et dans la Bible, il est beaucoup utilisé ces petits mots-là, deux lettres, trois lettres, et des fois ça... Ouf ! Cain, où est ton frère ? Adam, où te caches-tu ? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Bon, pour les autres, je vous les laisse. Hein. Mais ce que j'ai contre toi, et là, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et là, c'est terrible. Moi, j'ai l'impression qu'il est... Là, le Seigneur, d'un coup de mais, il a tout balayé. Ouais, c'est comme nous, hein. Des fois, à la fin d'une prédication, elle dit, ouais, écoute, c'est génial ce que tu as dit tard, tu sais, mais ouais, c'était super, tu as dit ça. Mais, et là, ouais, ça y est, tout s'écroule. Et des fois, notre patron, des fois, il fait des compliments, tout ça. Hein, quand on fait, tous les ans, je dois faire un bilan avec mon chef de service. Ouais, t'as, c'est super, tout ça, ton travail, tout ça. Mais ce qu'il faudrait que... Bon, ok. Je ne suis pas parfait. Alors, tu as abandonné ton premier amour. Qui ici se souvient de son premier amour ? Oublié, hein, abandonné, hein. Il reste pas grand chose, hein. On l'a enterré. Est-ce qu'il est encore là, ce premier amour? Est-ce qu'il est encore là? Est-ce que vous êtes tout feu, tout flamme encore pour ce Seigneur? Est-ce que la flamme est encore bien vive? Eh oui. Alors, j'ai pris ces versions, il y a d'autres passages, je dis perdu, mais plus majoritairement abandonné. Abandonner son premier amour, abandonné. Tu le prends, tu le laisses, et puis tu traces ta route, et puis j'abandonne. Alors j'ai dit abandonné. Alors il y a perdu, j'ai perdu. Mon premier amour, alors j'ai perdu. En général, quand on a perdu quelque chose, on ne l'a pas fait exprès. Je marche dans la rue, mon portefeuille, il glisse de ma poche, il tombe, j'arrive à la maison. J'ai perdu mon portefeuille. Je ne sais pas, j'ai abandonné mon portefeuille. Surtout pas pour un arabe, hein, abandonner son portefeuille. Vous êtes au magasin, vous faites vos cours, tout ça. Roméo, t'es où, Roméo? Vous dites pas, responsable du magasin, j'ai abandonné mon enfant. Non, vous dites, j'ai perdu mon enfant. Et puis, parlons de nos résolutions. Je sais pas où on en est là avec nos résolutions là. Ça fait janvier, février, mars, avril, mai. C'est bon, vous tenez le coup ou vous avez déjà abandonné? Qui c'est qui s'est lancé dans le sport? Qui c'est qui s'est dit je vais faire du vélo pour maigrir un peu? Hein? Abandonner, c'est une chose. Perdu, c'en est une autre. Malheureusement, il existe des gens qui vont dans des magasins ou là où il y a des grandes foules et ils abandonnent leur enfant. Ça existe. Et on n'a pas fini d'entendre parler de ce genre de choses. Et souvent, voilà, on abandonne des choses qu'on a commencées. Ça ne veut pas dire que le désir de perdre du poids, entre guillemets, je prends cet exemple, hein, n'est plus là. Et si, il est toujours là. Mais bon, j'ai fait 3 mois de salle de sport, et puis au bout d'un moment, j'y allais 3 fois par semaine, et après 1 fois par semaine, et puis après, je faisais coucou de loin quand je passais devant. Mais le désir est toujours là. Je pense qu'on a beaucoup de frères et sœurs comme ça, qui ont abandonné. Et qui continuent dans le monde. Ils ont abandonné. Quelle que soit leur raison, quelle que soit... Je ne juge pas. C'est sûr que je n'ai pas vécu la même vie qu'eux. Il y en a qui ont peut-être vécu des galères pires que les miennes. Et que pour se relever, il leur faut des années. Mais il y en a qui ont abandonné. Cela nous montre aussi que on peut avoir beaucoup de qualités. On peut être dans la doctrine, en plein dedans. On peut être des gens fidèles, assidus. Mais ne pas baigner dans cet amour. Moi, baigner, ma culture orientale, j'aime bien les beignets. Ma mère fait beaucoup des beignets. Baigner dans l'amour de Christ. Tout en faisant ses activités, tout en étant fidèle, mais baigné dans cet amour. Et c'est ça que le Seigneur reproche à cette église d'Éphèse. Oh, tu fais des super trucs. Mais mon amour, pour moi, il est où? La Bible nous rappelle que, dans des versets, que l'amour de beaucoup se refroidira. Et les Corinthiens nous disent, nous rappellent, si j'ai pas l'amour, 0 + 0 égale la tête à Toto. Si j'ai pas l'amour, je suis rien. Alors, il faut revenir à ce premier amour, et je pense que, dans mes recherches, je pense que la première étape, c'est que le Seigneur nous appelle à nous souvenir. Souviens-toi d'où tu es tombé, quelle a été la cause de ta chute. Quelle a été la cause de ma chute? C'est un appel à se souvenir, à se rappeler, une prise de conscience de notre état. Vous savez qu'on le fait quand on fait nos réunions plénières, on fait des comptes rendus. On fait les projets, on parle des projets qui sont passés, on va parler des projets à venir, on fait des bilans. Et je pense que des fois, on devrait faire aussi des bilans comme ça, spirituels. Où est-ce que j'en suis? On ne prend pas le temps de faire des bilans spirituels, souvent. On est pris par le temps. On est actif. Prendre conscience, c'est un état fondamental. Se rendre compte de ce qui ne va pas, sans chercher à le nier. Sans chercher à atténuer les choses. Sans chercher à se donner des excuses. Vivre dans la vérité et la transparence avec le Seigneur, pour le Seigneur. C'est important de réagir là-dessus, parce qu'après, pour redresser la barre, franchement, c'est difficile. Des fois, ça va tellement loin que... faut vite réagir. Une deuxième étape, je dirais, c'est celle de la repentance. Le Seigneur s'adresse à cette Église et à ses responsables. Repens-toi. Moi, je croyais que le repentance était que pour les non-chrétiens. Repens-toi. Sinon, ça rigole pas. Hein. La repentance, c'est déjà d'abandonner son point de vue, sa manière de voir. Moi, je vois, c'est comme ça les choses. Il faut abandonner son point de vue sans réserve. Pour laisser celui du Seigneur s'imposer à nous. Changer radicalement d'attitude et d'orientation. Reviens. Reviens à ton premier amour. C'est moi ton Seigneur, ton Sauveur. Reviens. Et nous devons courageusement changer. On va changer les peintures aussi. Donc la fresque, si vous voulez prendre des photos, avant qu'elle disparaisse. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a... C'est Yves qui a mis de l'enduit. Merci Yves. Une troisième étape, c'est de revenir, et ça, c'est ce que je viens de dire, à la personne du Seigneur. Nous pouvons faire de nombreuses activités, plus excellentes les unes que les autres. Mais ce qui compte le plus, c'est la motivation qui l'anime. Qu'est-ce qui nous anime? Quel est le moteur? Qu'est-ce qui nous pousse? Ce qui nous fait avancer? Notre seule motivation, ce doit être l'amour. C'est par amour que. C'est par amour pour le Seigneur. Par amour pour mes frères et sœurs. Par amour pour mon prochain. En dehors de ça, pour essayer de faire beaucoup de choses, on ferait plus de dégâts qu'autre chose sans amour. Dans cette lettre, le Seigneur attire notre attention qu'il ne faut pas prendre les choses à la légère. Le Seigneur est amour. C'est pour ça qu'il avertit. Oui. Le Seigneur est amour, c'est pour ça qu'il avertit. Si vraiment il ne nous aimait pas, il nous regardait comme ça en disant en attendant qu'on tombe dans le trou, quoi. Non. Il nous avertit. Il nous met en garde. Au verset 5, « Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu haïs l'œuvre des Nicolaïtes, œuvre que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles pour entendre entend ce que l'Esprit dit à l'Église. À celui qui vaincra, je lui donnerai de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de mon Père. » L'histoire nous confirme qu'il ne s'agit pas de paroles en l'air. Comme je disais tout à l'heure, vous pouvez aller en Turquie, l'église d'Éphèse, vous ne la verrez pas. Elle n'y est plus. Elle a disparu. Les sept lettres se terminent de façon semblable, c'est ce que je disais tout à l'heure, que chacun, s'il a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Cela veut dire que le Seigneur n'est pas silencieux. Il parle. Alors si on dit qu'on n'entend pas, c'est qu'on n'écoute pas. On doit juste écouter. On doit juste pencher l'oreille. Parce que le Seigneur parle. Le Seigneur nous parle. Si nous n'entendons pas sa voix, ce n'est pas parce qu'il se tait, c'est parce que nous n'écoutons pas. Nous n'écoutons pas ce que l'Esprit veut nous transmettre. C'est un encouragement. C'est cette promesse. À ceux qui auront remporté la victoire, je donnerai à manger les fruits de l'arbre de la vie qui se trouve dans le jardin de mon Père. La victoire. On a abandonné la victoire. C'est vraiment comme une course. Hein. Il y a ceux qui abandonnent pendant la course, puis ceux qui arrivent à l'arrivée, quel que soit ça, avec le Seigneur, c'est soit deuxième ou troisième, tu arrives, tu es vainqueur. L'important, c'est d'arriver. Ma conclusion, il y a encore des choses à dire, hein, mais je vais conclure. Alors, vous l'avez certainement compris, bien sûr. Si cette lettre nous est parvenue, ce n'est pas pour satisfaire notre curiosité à l'égard de cette église d'Éphèse. Par ailleurs, nous ne sommes pas l'église d'Éphèse. Ouais, chouette. On n'est pas l'église d'Éphèse. Oh. Par ailleurs, nous ne sommes pas l'église d'Éphèse. Notre bilan n'est pas identique au sien. Oh, le Seigneur n'a pas fait encore notre bilan. Mais nous pouvons tout de même en tirer profit de l'expérience de cette Église. Son expérience peut nous encourager à nous poser les bonnes questions à propos de notre propre Église. Les bonnes questions. Et des fois, ça me fait penser à un proverbe chez nous qui dit quand on veut faire des choses... Mon père, il me dit toujours, ah ben toi, quand tu veux faire des choses, des fois tu fais un truc, c'est comme si tu prends ta main droite pour gratter ton oreille gauche. Voilà, très compliqué. Le Seigneur, des fois, il prenait le peuple d'Israël, il faisait tout un détour pour arriver à un point donné. Et des fois, s'ils avaient su qu'il y avait le raccourci, là, ils auraient pris le raccourci. Son expérience peut nous encourager à nous poser les bonnes questions à propos de notre propre Église. Et chacun d'entre nous peut se poser les mêmes questions pour que nous corrigions ce qui doit être corrigé. Posons-nous en particulier cette question, puisque cette lettre nous y invite. Où en est notre amour pour le Seigneur, d'abord ? Notre amour les uns pour les autres, on en est où ? Notre amour pour nos frères et sœurs dans le monde, et notre amour pour tous ceux qui nous entourent et qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Gardons ces questions et essayons d'y répondre dans la présence du Seigneur. Seigneur, j'en suis où dans mon amour de mes frères et sœurs? Est-ce que j'aime tous mes frères et sœurs de l'amour de Christ? Seigneur, est-ce que je t'aime comme je dois t'aimer? Ou est-ce que je suis un peu refroidi ces temps-ci? Seigneur, est-ce que j'ai de l'amour pour mon prochain, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui ne sont pas encore rentrés dans la bergerie? Je vous laisse avec ça. Que Dieu nous bénisse à chacun. Pensons à chacun dans la prière. Pas seulement ici, mais chez nous. Pensons les uns pour les autres et prions. Que l'amour de Dieu, l'amour de Jésus-Christ, puisse vraiment, qu'on puisse baigner dedans. Et je pense que les activités et la peinture ne seront que secondaires. On aura une grande joie, comme je l'ai entendu ce matin dans la réunion de prière, de peindre avec joie dans l'amour, joyeusement. C'est ça que le Seigneur veut, avant tout, par-dessus tout, par-dessus toutes nos activités, nos actions, tout ce que nous faisons. Que Dieu nous bénisse à chacun. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, je veux vraiment te remettre. Chacun d'entre nous ce matin, Seigneur, tu es vraiment un Dieu d'amour. Et tu mets l'amour en avant, par-dessus tout. Oh Seigneur, tu pourrais nous complimenter sur beaucoup de choses, sur tous les efforts que nous faisons. Tu pourrais nous complimenter sur toutes les actions que nous menons. Tu pourrais nous complimenter sur tous les efforts que nous avons faits avec nos frères, avec nos sœurs, toutes les difficultés que nous avons pu rencontrer, sur toutes les fois où nous avons pu demander pardon, sur toutes ces choses, Seigneur. Mais sans ton amour, Seigneur, tout cela pâlit devant toi. Oh Seigneur, remplis-nous de cet amour. Donne-nous de regarder ce qui est prioritaire pour toi. Et Seigneur, si nous sommes refroidis, Seigneur, je t'en prie, Seigneur, rallume cette flamme, Seigneur Jésus, pour la seule gloire de ton nom, afin que nous puissions être efficaces pour ton nom, pour ta gloire. Amen.